bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est l'animal. Lundi, nous avancions avec le philosophe Baptiste Morisot les bases pour une nouvelle diplomatie avec les loups. Mardi, les meutes étaient composées de corps humains et peints à la vibration contagieuse. Hier, c'est le devenir peluche du web qui nous interpellait, toutes ces images et vidéos d'animaux mignons consommés en masse. Et demain, vendredi, une carte blanche cinéma en forme de bestiaire nous fera aller d'Apichapong vers Assetakul à Sydney Pollack. En attendant, aujourd'hui, le chien est à l'honneur dans la revue littéraire La Mer Gelée. Perdu qui aime se perdre, belle épine, vaste foin, nous n'avons rien sinon les mots à trouver, des phrases à tenter qui ne glissent déjà. Retenir les images, malgré nos semblants, se battre et traduire. Devenir commun, faire fou, hors des colonnes où l'on marche. Le faire seul, la vie est trop grande et la solitude un empire bien prospère. Demeure un bloc, nous allons ailleurs, alors, faire ensemble. C'est le manifeste poème d'une autre revue papier, murale, sonore, Jeff Clack, qui a choisi comme colonne vertébrale chantante et souriante la comptine « Trois petits chats ». Le dernier numéro a paru mi-avril, ils en sont à celle de cheval, et sur la couverture, un vrai chat porté par un homme en ciré orange, coiffé d'un masque d'équidé, nous fixe droit dans les yeux, comme quoi, en ce moment, les animaux nous regardent. Il est 14h passé de 2 minutes, peut-être qu'ils nous écoutent. Bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Ces nouvelles vagues, nouvelles façons de voir le monde, d'envisager les choses, sont souvent le fruit d'expériences marquantes, de rencontres, de chocs esthétiques ou de lectures. Cette semaine, Marie Hampe sonde ses souvenirs pour nous, à la recherche de ces moments de bascule. Elle est jeune costumière pour le théâtre et dans le cadre de sa formation pour son travail de diplôme, elle devait réaliser un costume pour un solo de danse, un costume de fleurs à métamorphose. Alors elle découvre la pensée de Francis Allais et Gilles Clément sur les arbres et sur les jardins. Et c'est de là ouvre pour elle quelque chose d'important. Récit vers 14h45. C'est le quatrième moment donc d'une semaine d'émission au cœur de laquelle se tient l'animal. Et cette fois, c'est le chien. Et ce n'est pas faute d'avoir songé à un autre. Après quelques années d'interruption, le comité de rédaction de la revue bilingue français-allemand La Mer Gelée choisit le chien pour un numéro manifeste. Impression noir et blanc, la revue est comme pliée dans sa largeur, le texte original en haut, la traduction en bas, et le chien partout. Le chien dans ses différents états littéraires, errant, gardien, disparu, soumis, méprisé, libre aussi, franchissant les barrières, ami à la vie et à la mort, animal politique et chien guide enfin puisqu'ils permettent aux lecteurs francophones d'arpenter les allées sauvages d'une littérature allemande, contemporaine ou du 20e, des poèmes qui, comme le veut le titre de la revue citant Kafka, font craquer la mer gelée en nous. François Attané et Noémie Lefebvre, vous êtes auteur et vous faites partie du comité de rédaction de cette revue qui a trouvé une nouvelle éditeur aux nouvelles Atina. Bonjour à tous les deux et bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être là.
De François Attané. Objet, chien, vache ou cheval comme premier thème. À Noémie Lefebvre, Antoine Bréa, Bernard Banoun, Aurélie Morin, Alban Lefranc. Bonjour. Chien, vache, cheval. Trois mammifères. Trois animaux plus ou moins domestiqués, ou perçus comme tels. En tout cas proches de l'homme au sens d'humain. Ça me va. C'est ainsi qu'il faut commencer notre bestiaire, je crois. Mais mon avis est qu'à moyen ou long terme, il faudra se diriger, se dériver vers des espèces plus éloignées, moins familières, plus étrangères, moins domestiquées, c'est-à-dire enveloppées déjà de représentations, de mots, l'oursin peut-être, ou le Bernard l'ermite. Être sans mots dans la rivière des vies. Mais à mon sens, c'est pour plus tard. Chien, cheval, vache, je suis pour chien.
Et ce premier mail qui ouvre la revue de la mer gelée, son numéro 7, dont je disais que c'est un numéro de reprise, comme un numéro manifeste, c'est un mail qui est un échange entre vous tous, lu par Romain de Bec-de-Lièvre. C'est un extrait où vous décidez de choisir le chien. Mais peut-être avant cela, revenir sur l'idée de bestiaire. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit des animaux ? Noémie Lefebvre.
Il fallait pas forcément que ce soit des animaux. Il fallait qu'on trouve... On avait envie déjà de faire une revue ensemble. Il fallait qu'on trouve quelque chose qui soit pas un carcan, mais plutôt quelque chose qui donne envie d'écrire à partir d'un point de départ très simple, qui n'est ni pédant, ni entouré d'idéologie, dont on peut suivre la trace. Et bon, on peut poursuivre la trace de quelque chose, un animal, c'est pas mal. Et puis, il y a eu pas mal de débats entre le chien, la vache surtout, sont deux animaux auxquels on a beaucoup pensé. Et puis, le chien a fait assez l'unanimité dans l'équipe parce que c'est un animal dont on peut tout et rien dire, qui est proche de l'homme mais quand même très très loin, et sur lequel on peut jouer à l'anthropomorphisme, mais aussi qu'on peut laisser parler. Et voilà, donc je pense que c'était... C'est aussi un animal qui est l'ami des Occidentaux, proche d'une société qui a besoin d'un animal pour se sentir en société, bizarrement. Donc c'est important, il fait partie en fait d'une vie sociale, d'une vie humaine, et en même temps il pousse les humains à se reconnaître comme animal. Donc ça, c'était intéressant pour nous.
Vous vous souvenez de la manière dont ces discussions étaient agitées et par quoi elles étaient agitées ? Notamment, par exemple, la vache. Pourquoi est-ce que vous avez hésité avec la vache ?
Oh, alors, moi, je me souviens qu'elles étaient quand même agitées pas mal par l'alcool et les bonnes soirées ensemble.
C'est une façon d'être agitée, en effet.
Très important. C'est essentiel, en fait, quand on fait une revue, c'est que le contexte de la revue soit un contexte extrêmement amical et ouvert, et dans lequel les décisions ne soient pas des décisions de comité central, mais des discussions d'abord entre amis. Alors la vache, c'est un animal aussi qui est proche de nous, parce que déjà, il y a deux Normands parmi nous, donc Alban Lefranc et moi. Donc on a une espèce de familiarité avec cet animal. Et puis,
Vous savez que vous partagez avec Alain Finkielkraut, hein.
Oui, mais ça, c'est pas de chance, mais voilà. Donc, en tout cas, il y a Alban Lefranc et moi qui aimons les vaches, à coup sûr. Et puis, c'est vrai que la réflexion de François sur le fait que la vache, c'est une femme, c'est, au sens d'humain, c'est quand même genré déjà le. Faire partir, en fait, la mère gelée sur une question de genre. Et comme le chien,
c'est plus générique
les chiennes,
pour vous.
Voilà,
ah ouais.
C'est ça. Donc et voilà. Et d'ailleurs, Alban assume pleinement d'être une chienne dans son texte. Donc il semblait que c'était plus simple de passer par le chien.
Alors vous argumentez dans ce mail, François Attané, il y a un passage qu'on n'a pas lu là, où il y a « voici mes arguments ». Alors pour les partager avec les auditeurs, comment est-ce que vous défendez cette idée du chien, notamment en tant qu'il vous permet aussi d'aller vers un territoire de la littérature, de la pensée de la littérature ?
Ce qui est séduisant avec le chien, pour qui souhaite lancer des écritures, les faire naître, les engendrer, c'est sa puissance d'ambivalence. C'est-à-dire que le chien, c'est celui que nous aimons, c'est le fidèle, le chien fidèle, c'est le meilleur ami de l'homme au sens d'humain, mais c'est aussi le chien crevé, le méprisé, le chien battu, le chien tabassé. Et à cet égard, cette ambivalence, cette contrariété de tout ce que nous pouvons investir dans le chien, dans les chiennes, avait un potentiel, disons, séminal pour des écritures diverses de part et d'autre du Rhin, qui m'a semblé en effet très très prometteur et qui m'a beaucoup enthousiasmé. Surtout, c'est une porte d'entrée, comme le suggère le passage qui vient d'être lu. C'est une porte d'entrée pour aller plus loin, pour aller vers des êtres encore plus autres et pour se dériver vers toujours plus d'humanimalité.
Il y a quelque chose quand même dans qui est assez présent dans les textes que vous avez choisi de publier et de traduire, c'est la notion d'errance, la notion d'amitié, mais qui est toujours très proche de la notion d'étranger, comme si le chien c'était le passager, celui qui est là mais qui peut partir, qui peut aller et venir.
Ce que vous dites est très éclairant, je crois, sur ce que nous avons tenté de faire et me permet de comprendre moi-même peut-être des liens que je n'avais pas aperçus. Oui, les chiens sont errants, comme la pensée elle-même est errante, et comme nous avons souhaité nous-mêmes nous faire errants en passant d'un texte à l'autre, d'une langue à l'autre, dans l'indécision d'avoir pris le bon chemin, par exemple, pour traduire ou pour parler justement et correctement des chiens. Cela restera indécis, nous sommes toujours en errance.
Vous avez fait ces réunions, donc rieuses, amicales, alcoolisées. Vous avez commencé par parler de ce que vous évoquait le chien. Vous avez commencé par exemple, convoquer des figures de chiens dans la littérature que vous connaissiez en langue allemande, en langue française, c'est parti de là ?
Je ne sais pas si on était tous au même plan d'érudition en fait. Hein, donc parmi nous, il y a
très grands hein.
lecteurs. Voilà. Donc effectivement, il y a eu quelques chiens littéraires qui sont arrivés assez vite.
Comme
entre nous. Je ne sais pas, François, quel chien tu peux penser ?
Baudelaire est arrivé très vite. Le spleen de Paris. Où vont les chiens ? Les pauvres chiens. Bien entendu, Kafka est toujours présent de façon massive, comme une espèce de socle auquel on revient toujours, et de trampoline aussi qui nous permet d'aller vers des horizons inattendus. Et puis il y a eu massivement Montaigne, l'apologie de Raymond Sebond, où on a une méditation complètement ouverte sur l'animal et complètement surprenante aussi par rapport aux catégories de pensée qui sont les nôtres aujourd'hui.
En quels termes, si on peut essayer de partager cette méditation ouverte de Montaigne sur les chiens à ce moment-là ?
Eh bien, la puissance de l'apologie de Raymond Sebond pour des lecteurs, je pense, du 21e siècle, c'est d'abord l'étrangeté de cette langue qu'on comprend parfois sans tout à fait la comprendre, sans tout à fait être certain qu'on a bien compris. Et puis il y a aussi le renvoi systématique, le renvoi si fréquent chez Montaigne, à des auteurs que nous ne lisons plus, Juvénal, Cicéron, Lucrèce, ou que nous lisons peu ou mal, et qui constamment, mettent dans la pensée de l'animal mythifié, mais avec aussi cette perplexité, peut-être qu'il y a un fond historique dans ce qui est dit. Donc Montaigne a été vraiment déterminant pour nous, parmi beaucoup d'autres textes. On a notamment croisé le chemin d'Antonin Artaud et puis d'un certain nombre d'auteurs allemands contemporains.
Que vous décidez de publier.
Qu'on a décidé de publier.
Vous faites écho à Kafka comme un trampoline aussi, un lien mis en partage, une possibilité de rebond, parce que aussi le titre de la revue emprunte à Kafka. La mère gelée, ça dit quelque chose de la déchirure en nous par la littérature, par le texte. Et cette déchirure, il me semble qu'elle intervient aussi à plusieurs reprises dans les textes que vous publiez, par le regard du chien. Le regard du chien qui me fait aussi penser à ce que disait Baptiste Morisot lundi sur le regard du loup, croiser le regard de l'animal, ouvre quelque chose, déchire quelque chose dans votre texte, François Tanet. Alors plus le mail, mais votre texte final, vous croisez le regard du chien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe entre celui qui croise le regard du chien et lui ?
Je voudrais ici faire allusion à un poème de Thomas Brasch que nous publions. Il était une fois où un chien attend indéfiniment l'arrivée d'un homme dans une île. On ne sait pas qui c'est. Le chien, c'est l'animal qui nous reconnaît, contrairement par exemple au chat, hein, qui répond quand on l'appelle, ou qui atteste constamment de sa mémoire de nous ou de sa non-mémoire.
C'est donc le chien qui reconnaît Ulysse, c'est avant le
chien
tout le monde.
C'est le chien qui reconnaît Ulysse, bien sûr. Et c'est aussi, par exemple, dans Platon, au livre 2, Socrate qui mentionne que le naturel philosophe, c'est le naturel du chien. Parce que, précisément, le chien, c'est celui qui gronde quand il ne connaît pas et qui, au contraire, se fait affectueux et amical lorsqu'il reconnaît, c'est-à-dire lorsqu'il se remémore une connaissance. Et c'est le naturel philosophe, le chien, de ce point de vue-là. Donc, là, on avait aussi, dans cet ancrage, dans l'Antiquité, que permet Montaigne, que permet aussi certaines lectures de Platon ou d'autres auteurs, une manière très surprenante de revisiter toutes les potentialités, je disais tout à l'heure, séminales de cet animal-là.
Et alors, cette question de la reconnaissance, quand je disais que la figure du chien, il semble que vous la choisissiez tous ensemble aussi pour établir un territoire changeant, mais un territoire quand même de la littérature, parce que elle est manifeste, cette revue, parce qu'elle semble aussi dire votre rapport à cela, c'est la manière de se reconnaître dans un texte, la manière dont faire craquer la mer gelée, c'est quelque chose qui se reconnaît. En quoi est-ce que, justement, vous pourriez détailler cette question manifeste ? Noémie Lefebvre.
Déjà parce que c'est pas un manifeste, ça a pas la forme d'un manifeste, il y a pas une prescription, ni des interdictions, ni des exclusions à venir, en tout cas c'est pas le fonctionnement qu'on a. Donc c'est beaucoup plus une attention à la singularité de ce qui peut être écrit, produit, et surtout une place ouverte à ce qui ce qui peut apparaître comme impossible, ce qui peut, c'est quand même aussi une, je pense que le relancement de la revue La Mer Gelée, ça a été aussi de se dire que on souhaite ne pas laisser tomber à la mer des pans entiers de langage, ne pas se limiter à des réponses, à des injonctions, à prendre des positions, mais à continuer d'explorer comme si on n'était pas dans un état tout le temps de défendre le territoire. Et donc prendre un animal pour simplement parcourir des contrées qu'on n'a pas imaginées comme limitées, parce que là c'est une revue franco-allemande, mais ça veut dire que c'est une revue avant tout qui n'est pas uniquement nationale. Et après peuvent aussi tout à fait écrire dans cette revue ou intervenir autour de cette revue des amis qui sont ni allemands ni français,
mais qui vivent à Berlin.
Voilà, par exemple, qui peuvent vivre à Berlin, qui peuvent vivre aussi au Canada, qui peuvent vivre ailleurs et qui ont quelque chose à dire sur des sujets qui ne sont pas déjà prescrits. C'est ça qui nous intéresse.
Thank you.
Oder Dorfhunde, kleingescheckte Schar. Schummel, Schwänze, Schummel, Stummel, Beine, Zeh, Schnauzen am Zaun. Euch gehört die Straße, der Staub am Asphalt au. Euch die wiederhallende Nacht im schlafenden Tal. Jedes Echo gehört euch. Der zuckende Rückstoß von Klang an den Hügeln, hierarchisches Knurren. Am Bellen in Wellen, heraklisch erst, dann hünenhaft, im Abklang fast nur ein Hündchen, das weiß. Wer hier nicht laut und Geifer gibt, den greift sich die Meute. Im Lauffeuer Kehlen verliert sich der Ort. So Mordio etc. Vermesst ihr die Welt in der Senke, beherrscht jeden Weg, jeden Fremden und mich. Euch gehört meine Fährte, mein zäpferes Zapfen, euch meine Waden, Dorf auswärts zuletzt.
Ô troupe tachetée des chiens du village, queue coupée, bout de patte, truffe collée à la clôture. La rue est à vous, la poussière roulant l'asphalte. À vous la nuit qui résonne dans le val endormi. Tout écho est à vous, choc du son ricochant sur les collines, grognement hiérarchique. Onde d'abois d'abord herculéen puis gigantesque, au décroît plus qu'un poulet ou presque, qui sait. Qui si qui ne gronde ni bave la meute, se l'attrape dans des gueules de feu, se perd le lieu. Criant ou loup, etc., vous mesurez le monde dans le vallon, dominez chaque chemin, chaque étranger et moi. À vous ma piste, mes pas tâtonnants, à vous mes mollets, pas sortis du village.
Lecture bilingue de ce poème d'Uliana Wolf. Juste après avoir entendu Dogs and Wolves de Inga Liljeström, vous faites cette lecture en allemand puis en français. C'est aussi l'expérience de lecture qu'on a dans la revue La Mer Gelée. Vous avez travaillé dans différents processus de traduction. C'est très clairement mis en avant et ça fait partie de la proposition. Pourquoi est-ce que justement faire exister les deux langues sur la même page, c'est une proposition importante pour vous, Noémie Lefer?
C'est une proposition importante parce que la traduction, c'est pas seulement verser une langue dans une autre, c'est aussi un processus littéraire. Et même si certains lecteurs lisent que le français ou que l'allemand, ce processus-là, il est au moins visible. Et on en a au moins la trace visuelle sur la même page. Donc ça, c'est un point important. Et puis aussi, c'est une manière de placer cette question de la traduction comme une question finalement peut-être pas centrale, bizarrement, après ce que je viens de dire, c'est que peut-être que c'est pas si difficile de se promener d'une langue à l'autre. Et que cette ouverture-là, qui est en France, qui est pas tellement dans la tradition nationale, de pouvoir voyager et puis apprendre, changer de langue, se promener partout, apprendre, c'est possible d'apprendre, c'est possible de comprendre un peu, le savoir très bien une langue, la savoir moins bien, c'est pas grave, mais en tout cas rendre possible des combinaisons comme ça, des trajectoires entre les langues.
C'est aussi pourquoi je parlais de chien guide en début, en introduction, parce que j'ai vraiment eu la sensation d'avoir précisément pour le lecteur l'autorisation d'aller d'une langue à une autre sans nécessairement maîtriser, mais aussi une porte ouverte vers une littérature qui, si on n'a pas, alors j'imagine que quand on a la curiosité, l'endurance qu'est la vôtre, on a grand accès à la littérature contemporaine ou poésie du XXe siècle allemande, mais sinon on en a un tout petit peu moins et d'énergie et de curiosité, c'est pas quelque chose qui nous arrive dans les mains facilement. Et donc c'est aussi ça que vous proposez, c'est quelque chose qui, ou bien c'est écrit assez récemment ou bien s'écrit précisément maintenant en langue allemande. Alors au passage, on va donner les traducteurs du poème, comme ça on fera le job jusqu'au bout.
Alors là, c'est Bernard Bannoun et Aurélie Mourin qui sont les grands traducteurs de La Mer Gelée quand même, qui ont fait énormément de travail. Donc Aurélie aussi depuis Berlin qui est très auprès des poètes, et puis Bernard qui est un excellent traducteur et relecteur.
Alors, on a tout à l'heure, par exemple, cité Thomas Brasch, qui est en effet traduit par Aurélie. Mais est-ce que vous pouvez donner quelques noms qui ont retenu votre attention, que vous avez décidé de publier, et pourquoi ?
Alors, nous sommes en effet très attentifs à publier des choses qui nous tiennent à cœur, tous. Et par exemple, nous publions à nouveau un poème de Monica Rink, puisque nous avons été les premiers à publier des traductions et des œuvres de Monica Rink en français dans des numéros précédents de La Mer Gelée. Et nous sommes très fiers là de proposer à nouveau un texte de Monica Rink. Monica Rink est une poétesse qui a un certain renom maintenant en Allemagne. Donc elle est née en 1969 et puis là elle vient d'obtenir le prix Kleist et elle a été aussi à l'origine d'un projet extrêmement intéressant qui est le Begriff Studio qu'on peut trouver sur le net qui est une espèce d'immense encyclopédie de toutes les possibilités de langage que nous offre, disons, la simple circulation dans les matériaux contemporains de la presse, etc. Enfin, c'est une œuvre complètement ouverte, très collective, et on peut trouver donc des œuvres de Monica Rink dans La Mer Gelée, mais aussi sur le net. Voilà.
Est-ce que vous avez remarqué des choses qui pouvaient être de l'ordre de la figure du chien ou un chien davantage dans les poèmes en langue allemande, dans les textes en langue allemande que vous avez publiés, que peut-être qui pourraient différer de textes en français publiés par ailleurs?
C'est difficile. Moi, j'ai pas vraiment repéré ça. Nos chiens se ressemblent quand même pas mal en Allemagne et en France. Peut-être que c'est le chien qui passe le mieux les frontières entre les deux pays. Non, c'est pas frappant. Je trouve pas que ce soit frappant.
Et puis, surtout, certains de ces textes se sont écrits en même temps que nous collections les autres, que nous les traduisions. Donc, on a une sorte on a une circulation d'un chien à l'autre, d'une langue à l'autre et d'un auteur à l'autre où plus rien n'appartient à personne. Donc on pourrait juste suggérer que les textes allemands étant plus brefs, justement la résonance, disons, dans l'imaginaire, le caractère, disons, moins descriptif de cette forme brève, laisse plus de place à la divagation et à l'errance. Voilà.
Le chien n'avait pas eu besoin de lire Les dieux de la famille pour comprendre Flaubert. Et particulièrement ces passages de Madame Bovary, où il est question d'un cheval glissant sur de l'herbe mouillée, de vent sur la grande route, de gelée sur les choux, de prairies à demi noyées dans le brouillard, de corbeaux qui s'envolent sur les champs retournés, de rivières froides à l'œil, toutes choses que Sartre n'avait pas du tout envisagées. Et l'odeur de la pluie, des engrais, du bois mort et des feuilles, ces odeurs qui fabriquent des espaces de saison en saison, d'heure en heure. Car ce qui intéressait le chien, c'était la question des espaces, et de leur délimitation. La critique de l'art pour l'art, comme celle du réalisme, n'occupait aucune place dans la pensée du chien. Et s'il avait lu la correspondance de Flaubert, il aurait annoncé avec lui « Abat les écoles quelles qu'elles soient, abat les mots vides de sens, abat les académies, les poétiques, les principes. » Il n'avait jamais, concernant la littérature, de leçons à donner ou à recevoir. Pas de manifeste à rédiger ni à respecter. Le chien s'en foutait pas mal de tout ça. Lui, ce qu'il comprenait, c'était que la liberté, la sienne, oui, et celle des chiens de tous les pays, ne pouvait pas dépendre du bon vouloir de quelques puissants et misérables créanciers, mais s'affirmerait d'abord par l'abolition du cadastre. Voilà pourquoi le chien passait son temps, au lieu de se coucher au pied des maîtres de maison, à traverser les haies, à courser le bétail, à soulever les grillages, à plumer les poulets, à chier dans les jardins, à vider les poubelles, à parcourir les rues et à se lier d'amitié avec les apatrides qui, comme lui, ne possédaient rien et n'avaient rien à perdre. Il mangeait et buvait avec eux, pauvre et libre jusqu'aux étoiles, celles que les drapeaux d'Europe et d'Amérique ne fixeront jamais. Ainsi vécut le chien marxiste 1, jusqu'à ce qu'il soit abattu à Mantes-la-Jolie par le SP-101 à canon court en 38 spécial d'un policier de la surveillance générale de la SNCF, alors qu'il tentait de s'introduire clandestinement dans un train express régional à l'arrêt sur la voie de service.
Animal politique, c'est la fin du texte que vous signez, Noémie Lefebvre, dans la revue La Mer Gelée. C'est un chien marxiste qui finit par mourir abattu. C'est aussi un chien qui franchit à la fois les barrières pour aller chier dans les jardins ou pour monter dans les trains en route. C'est un animal politique qui vous permet de penser quoi ? C'est un peu une fable que vous avez écrite comme une sorte de fable.
Oui, bah c'était un jeu aussi pour moi d'écrire ce texte, puisqu'il s'appelle « Le chien marxiste, étude des prolégomènes », comme si un chien pouvait être quoi que ce soit d'autre qu'un chien. Ça permettait d'essayer de penser, d'abord de réintroduire le mot « marxisme », qui n'existe plus trop dans le vocabulaire courant, et qui, moi, m'intéresse beaucoup, parce que le marxisme, c'est pas exactement le communisme, c'est quelque chose d'autre. Et puis d'introduire cette question hautement littéraire de savoir comment on peut penser le marxisme sans mémoire historique, sans avoir de conception d'une dialectique de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il en reste ? Eh ben, il en reste quelque chose qui s'apparente finalement assez bien avec l'anarchisme, avec des formes d'anarchisme, et qui sont un anarchisme plutôt libertaire, plutôt joyeux. Et donc, c'est cette disposition du chien à ne vraiment rien comprendre à ce qui est la propriété privée qui m'intéressait là. C'était cette question-là. C'est-à-dire revenir à cet âge d'or de l'homme qui n'a jamais été autre qu'imaginé, qui est celui d'un homme qui n'a rien à lui et qui est dans la perception pure, qui est dans la sensation pure du rapport à l'autre, du rapport au monde. Et donc cette liberté imaginaire, mais qui nous fait du bien à penser.
Oui, c'est ça. Vous dites qu'il n'a jamais été rien d'autre qu'imaginer, c'est-à-dire que le chien, ça vous permet de faire une hypothèse sur l'humain, mais sans avoir à prononcer le mot homme ou le mot humain. Ça vous permet de vous extraire un peu.
Ben, ça permet aussi d'essayer de penser une littérature sans langage et une philosophie aussi sans les mots, c'est-à-dire uniquement par des actions, des allées et venues, des promenades à côté d'une poussette, simplement une attitude dans le monde qui soit dégagée de cette responsabilité de parler, de dire beaucoup de bêtises quand même en général, et puis aussi de garder ce qu'on a, qui est quand même une grosse angoisse occidentale et puis maintenant mondialisée largement et qui pose d'énormes problèmes simplement pour être. Donc cette espèce de manière d'être purement agissante, c'est ça qui m'intéressait de retrouver. Oui.
D'ailleurs, je rappelais certains motifs qui parcourent cette revue. En effet, la qualité d'errance, de franchissement, mais aussi celle du regard qui arrête ou celui de l'ami, de l'étranger. Mais il y a vraiment cette question du langage qui revient très souvent. Il y a un poème qui invente même ce mot chien-langue, en tout cas dans sa traduction française, je crois. Le langage comme étant ce à quoi n'est pas obligé le chien. C'est assez... Bon, bien sûr, ce n'est pas la première fois que des auteurs s'interrogent sur leur obligation d'utiliser le langage, mais tout de même, est-ce que, pour revenir à la première discussion, pourquoi choisir l'animal comme un totem, en tout cas un point de départ pour cette revue ? Je citais Jeff Clack qui a aussi le cheval en couverture, comme si cet animal-là, c'était ce qui nous restait en tant qu'humain pour pouvoir penser là où nous achoppons.
Oui, alors cette question du langage, pour moi, elle est tout à fait essentielle. Et essentielle aussi dans le travail qu'on fait quand on se réunit, qui est qui est un travail au sens noble du terme, au sens le plus heureux du terme, je veux dire. Et en fait, on réinvente pas tout. Et là, cette idée de réfléchir sur le chien, on aurait pu prendre un autre animal. Les animaux, en général, on dit qu'ils parlent pas. Sauf Montaigne, qui a compris d'autres choses, qui a vu que parler, c'est pas forcément parler avec le langage humain. Mais c'est cette question de revenir à une littérature qui ne serait pas envahie d'un langage fabriqué, d'un langage tout fait, d'un langage imposé, avec ses formes imposées, et par ce détour par l'animal, on peut de nouveau avoir une certaine naïveté, comme si on pouvait reprendre les couleurs de la nature pour en parler, reprendre les mots à zéro pour refaire des phrases, sans être encombré par une espèce de novlangue qui est aujourd'hui vraiment extrêmement abrutissante et pesante.
Vous auriez pas pu faire ce texte beaucoup plus politique qui est à la fin de la revue en mettant un homme au cœur de ce petit récit?
Non, ça aurait été vraiment impossible parce que dire à un homme défais-toi du langage, il peut pas se défaire du langage en réalité. Donc par contre, faire réfléchir sur ce que c'est qu'un homme sans langage, oui, il aurait fallu que je prenne quelqu'un qui est un homme sans langage, articulé. Ça existe, bien sûr, mais ce serait quelqu'un qui serait dans le monde humain un handicapé, donc quelqu'un qui a quelque chose de moins, alors que le chien qui parle pas, il a rien de moins. Et pour ça, il est exemplaire aussi. Il est entièrement lui-même. Qu'est-ce qu'on fait pour nous être entièrement nous-mêmes, soi-même?
Oui, il y avait quelque chose qui était comme le chien comme un point à atteindre ou comme un point de passage intéressant pour aller vers autre part dans les textes François Attanet. Est-ce que à la lecture, il vous est arrivé des hypothèses aussi pour penser la littérature, pour penser le langage, parce que c'est aussi ce que vous proposez dans cette revue-là?
On a beaucoup pensé aussi à des nouveaux rapports à l'animal qui apparaissent dans la situation contemporaine. Je pense à tout ce qu'on appelle maintenant l'animalothérapie. Par exemple, le fait de mettre des gens qui ont des très graves troubles liés à des maladies neurodégénératives, par exemple à la vieillesse, ou des autistes en présence d'animaux, en présence de chevaux, mais souvent aussi beaucoup de chiens. J'ai pu être très très interpellé par ces pratiques et leur caractère extrêmement énigmatique, la façon dont l'animal apaise, transforme non seulement la personne, mais les rapports entre les personnes, ce que l'animal fait à l'homme et à la société, aux rapports sociaux, la façon dont nous sommes convoqués par ces êtres sans langage.
Pourquoi vous étiez
parlé autrement?
C'est ça. Et pourquoi vous étiez interpellé parce que vous ne pensiez pas que ça existait, parce que vous avez l'impression que ça ouvre un autre rapport entre les humains que vous ne connaissiez pas?
Tout cela est très intuitif, mais disons que s'invente dans des recoins pas toujours connus du monde social, dans les maisons de retraite, dans les maisons où on s'occupe d'enfants autistes ou autres, s'inventent de manière admirable, dans la discrétion et trop souvent l'invisibilité.
Le manque de moyens, on peut rajouter
entre parenthèses. Et le manque de moyens, bien entendu, des formes de rapports sociaux qui sont médiés par l'animal et qui induisent aussi une transformation de nous-mêmes par l'animal, par cette chair qui ne parle pas, mais qui est néanmoins une chair avec laquelle nous pouvons d'une certaine façon communiquer. Donc tout cela était très très présent dans l'écriture des textes, dans le fait que l'animal, en même temps qu'il nous déprend de notre humanité et nous convoque à nous penser en deçà du langage, en tant qu'énigme perpétuelle, le regard de l'animal, il nous convoque aussi à sortir de la solitude et de la tristesse et du chagrin. Aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains tiennent le coup, supportent le poids de vivre parce qu'ils ont près d'eux la joie d'un animal et notamment d'un chien.
Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Parce que de même que je demandais au corps collectif danseurs ou performeurs venus mardi parler de leur travail de meute et de façon de se penser en effet en dessous du langage, de penser la porosité d'une énergie, la manière dont elle contamine un espace, mais aussi la manière dont des corps peuvent se déplacer, se rassembler. Il disait qu'ils utilisaient le devenir animal de Leudien comme étant une possibilité de passer vers autre chose. Et je leur demandais, est-ce que ça veut dire que notre humanité ne le permet pas ? Est-ce que ça veut dire que ces rapports dont vous racontez, combien ils s'inventent en effet dans tous ces lieux, hôpitaux de jour, maisons de retraite ou autres lieux de thérapie, ça veut dire qu'on n'en a pas l'idée autrement ?
Ah, je crois assurément que les pratiques... l'inventivité des gens avec leurs animaux nous précède toujours et de très loin.
Mais ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire qu'entre humains, on a moins d'imagination ? Qu'on est moins capable de s'inventer des rapports qui sortiraient ?
Mais évidemment, on a beaucoup moins d'imagination quand on n'est pas en présence des animaux. Évidemment, on a beaucoup moins de ressources de vie et de joie lorsqu'on a chassé tous les animaux de la ville, lorsqu'on détruit les insectes, lorsque c'est la croix et la bannière pour faire venir un cirque à la rencontre des enfants des banlieues. Je parlais l'autre jour avec mon ami Nettie Radvani, qui est cavalière, artiste de cirque, et qui me disait l'extraordinaire difficulté qu'il y a à faire venir un cheval dans l'univers urbain aujourd'hui. Toutes les tracasseries procédurières, toutes les craintes que cela suscite, que le cheval fasse des dégâts, etc. Alors que quand le cheval est là, c'est une joie et des gens se parlent qui ne s'étaient jamais parlé auparavant. Assurément, nous sommes profondément diminués et amputés de nous-mêmes lorsque nous nous coupons des animaux.
Il y a dans la lecture de ces textes-là une joie qui, à mon avis, est à rapprocher du fait littéraire, de ce qui existe d'un point de vue littéraire, mais je crois aussi de la présence de l'animal. Donc il y a aussi une présence des chiens dans tous ces textes-là qui rend joyeux. Ce qui ramène aussi à ce que disait le philosophe Baptiste Morisot lundi, à savoir cette coupure. L'invention de la nature, c'est la manière de se couper d'une partie du vivant et d'inventer le sauvage. C'est une coupure que vous décrivez là en disant que finalement on se prive d'une inventivité, mais aussi d'une multiplicité des rapports possibles en éloignant, en tout cas dans les villes, le rapport avec l'animal. Pourquoi ?
Moi, je pense que la question, c'est que effectivement, les animaux n'ont quand même pas beaucoup de chances de résister à ce qu'on décide pour eux, globalement, et c'est dans ce sens-là que ça va. Donc parler des animaux et du chien, puisque c'est sur le chien qu'on a construit l'ensemble de la revue, c'est parler aussi de cette question-là, c'est la question de la domination.
De ceux pour qui on décide.
Voilà, et de ceux pour qui on décide, et comment faire pour se rendre compte que ceux pour qui on décide sont peut-être les êtres vivants dont on a le plus besoin. Et ça rend compte aussi d'un ensemble de tendances actuelles qui sont un peu gravissimes, je trouve, c'est-à-dire que tout ce qui est vivant est différent, que ce soit des animaux ou des autres animaux, comme appelle Aristote les hommes, sont laissés aux frontières de ces bons animaux que devraient être les humains occidentaux, bien préparés dans leur nation à être des bons citoyens. Là, il y a un vrai souci, un vrai problème qui est celui de briser aussi la littérature est là aussi pour ça, de briser cette altérité qui ne se conçoit que comme une domination au pouvoir sur l'autre. On restitue en fait dans La Mer Gelée quelque chose qui est de l'ordre d'une réponse possible à cette domination et qui même peut prendre des formes étranges, puisqu'il y a certains chiens qui sont des chiens extrêmement méchants, agressifs, comme par exemple
certains chiens de
voilà le chien du père sauvage, qui est un chien qui va mordre tous les passants qui arrivent, etc., qui est complètement dans la projection humaine de la domination et de la haine. Et même ce chien-là, en fait, ne résiste pas à cette posture agressive. puisqu'il finit assez mal. Il finit mort et pendu au je veux pas non plus raconter la fin, mais voilà, il finit mal. Donc cette question-là, c'est la question de la vulnérabilité d'autrui. Et autrui, c'est pas que mon voisin de palier ou quelqu'un qui habite de l'autre côté d'une frontière. Autrui, c'est tout ce qui est vivant. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est vivant?
Il pensa à un chien et il en éleva un vrai méchant chien avec de la bave et des crocs et des grognements de haine et des jappements sans fin et des griffes de fer, un vrai sale animal qui était sur pattes au bout du chemin, tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui-même et qui le dévorait. Ça marcha un temps, mais le chien mordit l'anglais. Le pauvre, il prit peur en entendant l'anglais démarrer sa tondeuse à gazon si près de l'endroit où il avait sa niche, à l'arrière bien entendu, et il fonça sur l'anglais et le mordit à l'épaule, et il le mordit à peine. L'anglais, quand même vigoureux, réussit à s'esquiver, mais dans une sorte d'inexplicable affolement, il grimpa à l'arbre et le chien voulut le poursuivre, mais il ne put pas, de sorte que l'anglais se trouvait à l'abri du danger. C'est un extrait du Père Sauvage que vous évoquiez tout à l'heure, Noémie Lefebvre. Peut-être dire un petit peu plus sur ce texte-là qui ouvre La mer gelée.
Alors, il s'agit d'un texte écrit par Hervé Bouchard, qui est un auteur québécois contemporain, qui a fait un certain nombre de livres magnifiques, et en particulier un livre que je vous recommande, Mayou, qui a été très très lu au Québec et qui arrive à peine aujourd'hui en France grâce au Nouvel Attila, aux éditions du Nouvel Attila, qui sortent ce livre-là ces dernières semaines, Mayou. Et c'est un très très beau livre sur l'enfance, Le Père Sauvage. Donc c'est la suite du travail d'Hervé Bouchard dans la langue française et l'effet qu'il fait à la langue française.
Alors il fait quoi comme effet à la langue française, ce Père Bouchard?
Eh bien, il a tort, tout d'abord parce qu'on est surpris en tant que francophone de France métropolitaine de certaines tournures proprement québécoises, de son usage de l'argot québécois. Et puis, non seulement il la tord, mais il la restitue à l'enfance, à l'animal, avec beaucoup, beaucoup de drôleries à l'animal et au chien dans La mer gelée, à l'enfance dans Mayou, aux éditions du Nouvel Attila.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richeux.
14h50 sur France Culture. À cette heure-ci, nos discussions se suspendent pour faire entendre des récits d'émotions, des moments marquants, des moments de bascule. Cette semaine, c'est Marie Ampe qui se prête à cet exercice. Elle est costumière, elle terminait ses études et elle devait rendre un diplôme. Ce diplôme était un costume de fleurs métamorphose pour un solo de danse.
C'était pour un solo de danse. Et l'idée de départ, c'était la réalisation d'un costume fleur à métamorphose. Donc avec cette idée de manipulation et puis cette inspiration du monde végétal. Je crois que c'est mes professeurs qui ont amené deux références qui ont été assez importantes et qui me nourrissent encore aujourd'hui. Francis Allais et Gilles Clément. Donc Francis Allais, c'est un botaniste, biologiste qui est spécialiste des forêts primaires, qui travaille beaucoup là-dessus, qui est un monsieur assez passionnant quand on l'écoute parler des arbres et qui a un regard sur le végétal, enfin qui moi en tout cas m'a amené à poser vraiment un autre regard sur le végétal qu'on peut considérer comme chose inanimée, qu'on voit pas trop vivre, sur lequel on peut un peu avoir les pleins pouvoirs en tant qu'humain, parce que c'est assez facile d'abattre un arbre qui a 1000 ans, avec une bonne tronçonneuse. Et Gilles Clément, qui est paysagiste, ingénieur horticole, lui qui se définit comme jardinier, et qui a fabriqué tout un tas de théories et de pratiques autour de ces théories, autour du jardin. Le jardin en mouvement, le jardin planétaire, avec la considération que le jardin, c'est quelque chose de vivant, que s'il est constitué de plusieurs parties, c'est des parties qui vont être en lien les unes avec les autres, donc comme un organisme en fin de compte. Avec toute la recherche aussi sur les synergies entre les plantes, et puis la conception aussi du jardin, comment on organise ça quand on est paysagiste par exemple. Ces deux auteurs, penseurs, chercheurs dans lesquels je me suis plongée, qui ont beaucoup nourri ma réflexion. J'avais déjà une sensibilité assez forte pour tout le monde végétal, mais là, du coup, c'était assez bouleversant. Et puis, considérer ça de manière très organique, très vivante. Et puis, depuis 3 ans, là, c'est la 3e année, c'est un jardin potager qu'on fait avec mon amoureux, parce qu'on a la chance d'avoir un petit jardin. Et du coup, la rencontre avec tout ce que ça implique, avec la manière dont ça peut ancrer dans des rythmes, chose qui est assez importante, d'autant plus avec un mode de vie assez décousu, aléatoire. Moi, je suis intermittente du spectacle, donc j'ai pas de rythme stable. Et du coup, déjà ce que ça amène en termes de cadre, comment ça pose, les saisons, le travail qui va avec les saisons. Par exemple, en ce moment, c'est le début du printemps, et du coup, il y a plein de choses à faire, tous les semis qu'il faut attaquer. Et en même temps, toutes les petites choses qui commencent à ressortir après l'hiver, où il y a un grand silence qui s'installe, on sort pas beaucoup. Et là, d'un coup, les petites choses qui pointent, après la relation, le toucher aussi, les odeurs, les fleurs, les couleurs, c'est des trucs qui sont assez riches. Et puis de reconsidérer aussi comment on se positionne en tant qu'être humain dans un environnement, et d'essayer de sortir un peu de cette opposition binaire homme-nature, d'essayer de voir comment ça tricote dans les relations avec ces autres êtres vivants-là.
Sharks, but you're wearing a suit. The suit is made of chicken skin, so you'll survive the shoot. 10 will make you bleed while you build up some speed. When you get up to 80, right on the saddle, let go of the handlebars and do a triple somersault. 6 a kick in your head while you enter the church. You set fire to the priest, but save him with the holy water.
Tropic Cool de Gabley, choisi par Somanina pour terminer l'émission, est tiré de l'album Jolly Trouble. C'est tout neuf. Merci beaucoup, en tout cas Noémie Lefebvre et François Attané, d'avoir été avec nous pour présenter ce numéro de La Mer Gelée. On a parlé de quasiment tous les textes, sauf d'un procès. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est un procès verbal qui a été rédigé par Antoine Bréa. Et je voudrais juste de dire que le chien dans ce texte-là a le rôle du chien qui attend et pour lequel on s'inquiète alors qu'on est aux prises avec des formulaires de police et une situation de garde à vue qui s'éternise et voilà. Et ce texte a été écrit dans un contexte aussi extrêmement dur à Paris, puisque c'était juste après les événements de Charlie, et avec toutes les tensions autour de ça et la montée en puissance d'une ambiance sécuritaire. On n'est pas tout à fait sorti.
Vous pourrez, j'imagine, prolonger toute cette réflexion et allonger le procès verbal, par exemple à Lyon, Festival de la Revue. Vous y serez La Mer Gelée le 14 mai à 19h. Et puis on peut trouver cette revue et on mettra le lien sur la page des Nouvelles Vagues pour s'abonner Der Hund, le chien, au cœur de La Mer Gelée. Les Nouvelles Vagues, c'est terminé pour aujourd'hui, mais en surfant un peu du côté de franceculture.fr, vous pouvez réécouter tous les animaux dans l'ordre qui vous plaira. Cette émission est imaginée avec Romain de Bec-de-Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron et Somanina, qui la réalise. On peut aussi se parler via Twitter et Facebook. Aux manettes aujourd'hui, c'était Pierrick Monsigny, au droit d'auteur Sophie Salio-Marie. Je vous retrouve demain, même heure, même antenne, pour Carte Blanche Cinéma Bestiaire.